France Culture.
France Culture, être et savoir. Louise Touraine.
Bienvenue dans Être et Savoir, le magazine de l'éducation de France Culture, le mercredi après-midi et en podcast. Aujourd'hui, à l'école de l'amitié. Comment se forment les amitiés? Comment ces liens choisis nous forment et nous transforment, en particulier à l'adolescence? Ces questions sont au cœur de deux livres très originaux et très différents, mais on peut dire que ces deux ouvrages proposent d'explorer les sentiments d'amitié autrement que par la fiction. J'adore des histoires d'amitié dans la littérature jeunesse et en les prenant au sérieux, ces sentiments. L'un est publié par le chercheur Timothée Chabot. Il s'adresse aux adultes et intéressera les professeurs et les parents. Son titre, Les amitiés au collège. L'autre viserait plutôt le public ado, jeune adulte et donc au fond tout le monde. Son titre, Les amis, c'est la vie, il est signé Alice Rebaud et illustré par Digli. Leur credo commun, l'amitié change la vie et même le monde. Nous devrions donc collectivement prêter davantage attention à ce sentiment et reconnaître sa valeur. Il y aurait un bénéfice à tirer pour notre société de plus en plus clivée de la puissance de l'amitié. Un sentiment qui traverse parfois les classes sociales, les origines et les genres. Et ça commence à l'école. Bonjour Timothée Chabot.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, maître de conférences à l'université Toulouse Jean Jaurès et vos recherches portent sur les sociabilités amicales et l'analyse des réseaux sociaux à l'école mais aussi tout au long des parcours de vie. Les amitiés au collège, mixité sociale et relations entre élèves, apparu au PUF en juin 2025. Première question, est-ce que c'est parce que vous êtes intéressé à l'amitié chez les adultes que vous êtes allé voir du côté des jeunes ou est-ce que c'est l'inverse et est-ce que ça a un rapport d'ailleurs de travailler sur les deux en même temps?
Oui, complètement. C'est bien l'amitié chez les adultes qui m'intéressait et les jeunes étaient une voie détournée pour s'y intéresser. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était la mixité sociale des amitiés et les amitiés transclasses. Il se trouve que chez les adultes, c'est pas si fréquent et que les adultes, pour plein de raisons, mais se croisent pas beaucoup entre milieux sociaux différents. Ici, à la Maison de la Radio, je ne sais pas si on va croiser énormément de gens d'un milieu social très différent du nôtre. C'est beaucoup plus le cas chez les adolescents. À l'école, il y a un peu tout, il y a un petit peu tout le monde. Et donc, c'était le bon endroit pour observer comment on se rencontre quand on ne vient pas des mêmes milieux.
Il y a plein de métiers à la Maison de la Radio. En fait, on rencontre des gens assez différents, mais peut-être pas tant que ça, effectivement, par rapport à ce milieu très particulier qu'on va décrire aussi. Hein. Quel collège? Et d'ailleurs, des collèges assez différents. Vous avez travaillé sur plusieurs types de collèges.
Oui, alors ils avaient en commun de tous être mixtes, puisque c'était ce qui m'intéressait. Mais en dehors de ça, effectivement, j'en ai voulu qu'ils ne se ressemblaient pas trop pour voir comment ça se passait à différents endroits. Il y a dans le livre deux collèges qui sont en région parisienne, il y en a deux autres qui sont en Savoie, dans plutôt des petites villes ou des villes moyennes. Il y a aussi deux collèges publics et deux collèges privés du secteur de l'enseignement catholique.
Et on va voir ce que ça change. Bonjour Alice Rebaud.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Monde pour lequel vous documentez les jeunesses. Et je vous lis beaucoup. Vous êtes l'autrice de « Nos puissantes amitiés » publié à La Découverte en 2024. Il paraît en poche en ce mois de septembre qui vient de s'écouler, puisqu'on est en octobre au moment où on se parle. Et vous publiez également « Les amis, c'est la vie », je l'ai dit, à La Ville brûle. « Nos puissantes amitiés », c'était à La Découverte. « Les amis, c'est la vie », c'est presque un guide. Même question. Alors, vous êtes d'abord intéressée aux adultes. Et maintenant, aux jeunes, pourquoi?
Parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui se cristallisent dès les premiers âges, en fait. Finalement, dès la maternelle, il y a beaucoup de choses qu'on apprend en termes de normes, de comment est-ce qu'on a le droit ou non, finalement, de faire relation. Avec qui est-ce qu'on a le droit de le faire? De quelle manière est-ce qu'on peut se projeter ensuite dans la vie adulte? En fait, tout ça commence un petit peu à se maturer dès ces jeunes années d'enfance, d'adolescence. Et moi, j'avais à cœur de pouvoir, dès ces jeunes années, pouvoir leur dire que, bon, c'est le propos du livre, que l'amitié est un sentiment, des relations qu'ils n'auront pas forcément à laisser sur le bas-côté une fois devenus adultes. Parce que je me suis rendu compte aussi que pour beaucoup d'adultes, c'était difficile en fait de sortir des schémas qu'on avait appris plus jeune et puis de réinventer alors que notre vie a déjà commencé, finalement notre vie adulte a déjà commencé, d'autres schémas relationnels, d'autres manières de construire nos existences.
Est-ce que vous pensez que l'amitié nous éduque?
Bah, je pense qu'en tout cas, l'amitié est un bel espace pour venir questionner certaines normes. C'est des espaces aussi très importants en termes d'émancipation, d'estime de soi. Moi, c'est beaucoup ce dont on m'a parlé finalement dans mes enquêtes. Des espaces où en fait, on se grandit soi-même et puis aussi collectivement. Et donc, il y a quelque chose de quand même assez intéressant en termes de se faire société dont on a besoin plus que jamais.
Quand les House Martins reprenaient James Taylor en 1988, c'est une des grandes chansons de mes années collège. On va en parler du collège avec vous, Timothée Chabot. Mais qu'est-ce que l'amitié? Et vous n'avez pas 4 heures. Qu'est-ce que l'amitié pour vous dans ce livre? Comment vous la définissez?
Il y a un petit peu deux réponses. La première, c'est que personne ne sait très bien ce que c'est que l'amitié. C'est souvent une relation qui est définie un peu négativement. C'est pas de l'amour, c'est pas la famille. On va un peu mettre tout ce qui traîne dans cette grande catégorie qu'est l'amitié. Et chez les élèves, ça se voit très bien qu'ils comprennent pas tous le mot de la même façon. Ils ont des attentes assez différentes par rapport à ça. Après, en sociologie, ce qu'on aime bien dire, c'est qu'une amitié, c'est une relation qu'on arrive à transposer hors du contexte dans lequel elle s'est formée. J'ai des relations avec mes collègues de travail, je les vois à la cantine, au bureau, etc. Le jour où je commence à partir en vacances, avec certains ou certaines d'entre eux, ou à les inviter chez moi, je commence à les voir en dehors de l'endroit et de l'activité dans laquelle on s'est rencontrés. C'est un petit peu comme si la relation commençait à avoir sa vie propre, à s'autonomiser. Et là, on peut généralement commencer à parler d'amitié.
Alice Rebaud, un peu même question. Qu'est-ce que l'amitié, dans votre livre, pour vous, dans Les Amis, c'est la vie? D'ailleurs, je crois que c'est un livre qui essaye aussi de définir ce que ça peut être pour les gens, hein, au niveau très personnel, intime, individuel et collectif, parce que l'intime, c'est aussi collectif. Comment vous pourriez le définir pour nos auditeurs, auditrices?
Moi, je vais vous faire une réponse un peu en creux, mais je me risque pas trop, en fait, finalement, à donner une définition très franche de l'amitié, parce que ce que je trouve intéressant dans ce lien, c'est justement qu'il peut concerner des modalités relationnelles extrêmement variées. Ça peut être la personne qu'on va voir une fois l'an, et qu'en fait, ça sera quand même comme toujours, comme si on s'était quitté la veille. C'est la personne à qui on parle par message tous les jours. C'est celle avec qui on va plutôt faire des dîners ou aller au cinéma. Et en fait, tout ça, tous ces liens-là, ils se valent autant et ils sont tout aussi importants dans nos vies. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose comme ça de précieux dans l'amitié, d'une forme de lien un peu lâche, un peu qu'on peut, en tout cas élastique, qui peut être modelé en fonction du moment de la vie où on est et puis des
personnes. Qui échappe à la normativité, par exemple, de l'amour, du sentiment amoureux tel qu'on nous le décrit dans nombre de fictions et puis aussi dans les représentations collectives.
Bien sûr, il faut pas idéaliser non plus l'amitié qui est pas exempte de schémas et de dynamiques de domination, qui peut voir ressurgir aussi parfois certains réflexes qu'on peut apprendre aussi dans d'autres relations de tout type, dans la famille ou dans l'amour. Mais c'est vrai que l'amitié est un peu moins empreinte de cet imaginaire caractère de possession, de jalousie, qui est vraiment, voilà, qui enserre finalement l'amour romantique tel qu'on le pense aujourd'hui, et aussi moins empreint de cette idée de fusion, même si on peut le questionner, ça existe aussi les amitiés fusionnelles, mais il y a moins cette idée de duo. En tout cas, c'est possible de faire amitié autrement, alors que c'est vrai que l'amour, on a quand même des schémas très, des normes très 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 très, très serrées.
Et rigoler les mecs, n'empêche qu'on est que 5 petits branleurs. On se fait virer des cafés, on n'a jamais un rond, on sèche les 3/4 des cours, on n'aura jamais le bac. Et j'aimerais bien voir la gueule qu'on aura tous dans 10 ans.
Ouais, c'est vrai, tous des chômeurs.
Non, moi dans 5 ans, je nous vois bien offrir un petit resto.
Ah ouais.
Alain à la cuisine.
Oh non.
Toi Bruno, je te vois à la guitare dans un petit coin. Léon à la caisse. Ouais. Momo en salle.
Non, ouais, ce serait cool, ouais. À part la bouffe, quoi, parce qu'Alain...
plat unique, ravioli en boîte.
Non mais sans blague, c'est un truc qu'on pourrait faire. Tu te rappelles pas de McVeigh à Amsterdam?
Ah ouais, c'était génial ça. Tu vois, au rez-de-chaussée, il y avait une grande pièce où il y avait de la musique, des groupes et tout. Et au premier, une salle avec des coussins partout, tu pouvais fumer. Il y avait des bouquins aussi, une bibliothèque. Et puis parfois, il y avait des pièces de
ouais,
théâtre.
Ouais mais non, mais nous on ferait des raviolis à tous les étages.
Ah non, t'es vraiment con.
Ouais.
Non mais sans déconner.
Non mais je déconne pas moi.
Non mais moi je voudrais bien voir la tronche qu'on aura tous dans 10 ans.
J'adore cet extrait du Péril jeune de Cédric Clapiche de 1994 parce que c'est exactement les discussions que je retrouve chez des petites filles d'école élémentaire qui se disent qu'elles auront une ferme avec des chevaux ou chez des collégiens. En fait, on s'imagine au futur, on se projette. Alors, quand on s'intéresse à l'amitié chez les adolescents, qu'est-ce qu'on remarque, Timothée Chabot? Vous définissez quand même quelques principes. Le plus grand, c'est l'homophilie. Ce mot, il est très important. Qu'est-ce que l'homophilie des ados?
L'homophilie, qui concerne les ados, mais aussi les adultes et toutes les relations, c'est la tendance à être ami avec des personnes qui nous ressemblent, de différents points de vue. Homophilie, en grec, ça veut dire l'amour du même. Ça peut être de l'homophilie de genre, c'est-à-dire que, très clairement, chez les ados, les garçons sont plus souvent amis avec des garçons, les filles sont plus souvent amies avec des filles. Ça peut être de l'homophilie scolaire, les bons élèves avec les bons élèves, ça peut être de l'homophilie de classe sociale, les enfants de cadre ou les enfants d'ouvriers, plus souvent ensemble. Donc, sur plein de dimensions, on observe quasi systématiquement une tendance à avoir plus de relations avec des gens qui nous ressemblent. Il y a quand même des exceptions. Et j'imagine qu'on va en reparler. Mais c'est effectivement une des très, très grosses régularités qu'on observe.
Alors, c'est très, très fort. Le plus fort, c'est le genre, en fait.
De très loin. De très, très loin. Ce qui n'est pas complètement surprenant. Déjà, chez les tout-petits-enfants, c'est le premier prisme à travers lequel ils perçoivent le monde, ou en tout cas, ils se perçoivent les uns et les autres. Et donc, oui, l'ordre de grandeur, en gros, c'est que pour 4 amis de son genre, on a 1/5 d'un genre différent au collège. À peu près ça. Donc, moi, j'aurais 4 amis garçons et une amie fille. Ça diminue un petit peu quand même entre la 6e et la 3e. C'est-à-dire que, à mesure que l'adolescence arrive, les amitiés entre genres deviennent plus fréquentes. Il y a aussi des enjeux de recherche amoureuse qui font que ça commence à devenir plus intéressant d'aller voir l'autre genre. Mais malgré tout, ça reste quelque chose de très présent. Et la première chose qu'on remarque, en fait, quand on s'intéresse à leurs amitiés.
Comment vous en ont-ils parlé, les élèves à qui vous avez posé la question?
Très difficilement. Ça leur paraissait assez incongru, je pense, que leurs amitiés puissent être un sujet d'étude. Et souvent, en tout cas, au début, ils ne savaient pas trop quoi en dire. Ça leur paraissait tellement naturel, tellement évident, le fait que, bon, bah, ils avaient des amis à l'école et voilà, que ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel ils avaient beaucoup de choses à dire intuitivement. Après, évidemment, quand on creuse un petit peu, là, oui, il y a plein de choses à dire sur comment ils se sentent avec leurs amis.
Alice Rebaud, je vais vous poser une question que j'aurais jamais cru pouvoir formuler un jour à la radio. L'amitié entre filles et garçons, ça existe?
Évidemment. Mais c'est une bonne question parce qu'en fait, ça agite énormément les cours d'école et cette tranche d'âge-là de l'adolescence, avec cette idée que, en fait, l'amitié entre les filles et les garçons, elle est plutôt réputée impossible. Et que filles et garçons ne peuvent relationner entre eux, finalement, que par le prisme de la séduction, de la drague. Et ça, c'est quelque chose qu'on leur apprend très très tôt, en fait, dès la maternelle. Il y a cette idée que si on est un garçon, il faut vaut mieux, voilà, plutôt être ami avec d'autres garçons, et que être ami avec des filles, montrer de l'affection pour une fille, en fait, c'est sortir du club des garçons, donc devenir soi-même une fille, et donc perdre, voilà, l'attribut de masculinité. Ce qui fait que peu à peu, au fil des années, ben voilà, on se retrouve certes avec des écoles mixtes en termes de genre, mais en fait, les enfants se mélangent assez peu. Et dès la maternelle, en fait, même des enfants qui intuitivement avaient envie d'être amis avec des filles, en fait, finissent par se reprendre de d'eux-mêmes par la pression du groupe et par abandonner, parfois avec beaucoup de douleur et de tristesse, les liens qu'ils pouvaient entretenir avec les filles. Et ça... ça perdure ensuite jusqu'à l'âge adulte, où après on a des grands films, voilà, qui nous montrent toujours des amis femmes et hommes qui finissent par se mettre en couple ou par finir dans le même lit, ou voilà ces expressions qui courent partout, où finalement on se dit qu'il y a toujours anguille sous roche entre une femme et un homme hétérosexuel, aux grandes dames de toutes les personnes qui expérimentent ces amitiés mixtes et qui doivent constamment se justifier.
Qui existent, hein, donc d'après Timothée Chavot. Parce que le grand risque, c'est d'être sans amis. Je pense aussi aux travaux de Margot Déhage, sociologue comme vous, Timothée Chabot, sur la réputation. Et c'est ce que vous disiez, Alice Rebaud. On doit conserver sa réputation de jeune garçon viril ou de fille féminine et du côté des filles, un peu bien rangée. Ça pèse aussi. Et être sans amis, c'est très très grave à l'adolescence.
Oui, complètement. C'est à peu près ce qui peut arriver de pire. Je ne sais pas, en tout cas, c'est une très grosse pression, oui. L'adolescence, c'est le moment où l'amitié devient un lien fondamental et par certains aspects obligatoire. En gros, c'est le moment où on s'éloigne de sa famille, de ses parents et on commence à vouloir s'inspirer des gens de son âge pour se construire une identité. Et donc effectivement, être perçu à l'école comme quelqu'un qui n'arrive pas à se lier aux autres personnes de son âge, c'est très stigmatisant, c'est très difficile. Ça n'arrive pas à beaucoup d'élèves, heureusement. Mais en revanche, la menace ou le couperet que ça puisse être le cas est un petit peu toujours là. Et ça peut produire des cas où certaines amitiés ne sont pas vraiment choisies, ne sont pas apaisées, bienveillantes, épanouissantes, mais où des personnes se sentent quand même obligées de rester dans un groupe d'amis parce que le risque de se retrouver tout seul, la peur de lâcher un peu cette sécurité qu'on y trouve, est très présente. La bonne nouvelle quand même, et j'y pensais aussi sur le genre, c'est que cette pression très forte, elle diminue avec le temps, à mesure que les adolescents grandissent. Et... pour ce qui est des amitiés filles-garçons, c'est le cas aussi quand on fait des enquêtes chez des gens un peu plus grands, chez des adultes ou chez des étudiants d'université. Là, on a des amitiés filles-garçons qui sont nettement plus fréquentes.
Alors, ce qu'il faut dire aussi, Timothée Chabot, c'est que dans votre livre, il y a beaucoup de verbatim d'adolescents avec vraiment leurs expressions. Hein. Donc,
Je me suis beaucoup amusé à retranscrire ça.
De parler. D'accord, t'es désolé, je vais être désolée pour toi. Après, du coup, je bosse pas pour mes parents, pour travailler. On entend la voix des ados qui s'expriment de manière familière. Ce sont des jeunes collégiens. L'idée de se séparer de ses parents, de s'éloigner des normes de sa famille, est-ce que c'est ça qui permet de se faire des amis de classes différentes dans ces collèges mixtes dont vous parlez dans ce livre? C'est très important, c'est au cœur du livre. Des amis de milieux sociaux différents, de milieux sociaux peut-être plus populaires, par exemple, quand on est soi-même d'un milieu favorisé.
Oui, complètement. Alors, ça dépend des parents, mais globalement, beaucoup de familles ont autour d'eux des cercles de relations qui leur ressemblent pas mal socialement. Et donc, quand les enfants sont petits, tant qu'ils prennent leurs amis dans les enfants des amis de leurs parents, dans les gens que les parents invitent chez eux, etc., ça se ressemble pas mal. Au début du collège, de plus en plus, les amitiés se forment en dehors du regard des adultes. Et donc là, les normes ou les attentes que fixent les parents sont beaucoup moins présentes. Des fois, c'est même un petit peu un jeu pour les adolescents d'essayer d'aller contre ce qui est attendu. Donc oui, ça contribue à la mixité des amitiés. Après, plus fondamentalement, la mixité des amitiés, elle tient au fait que ces élèves, ils sont pas si différents que ça. En tout cas, dans leur vie quotidienne à l'école, ils écoutent les mêmes cours, ils doivent apprendre les mêmes leçons, ils ont envie de faire les mêmes remarques sur la calvitie de tel ou tel enseignant. Et donc, ils ont plein de points communs ou plein d'occasions de construire des relations ensemble, en laissant de côté, en fait, tout ce qui pourrait renvoyer à leur origine sociale.
Donc, ce qui compte, c'est d'être au même endroit, au même moment, et... la vie fera sa magie et les amitiés se créeront vraiment ?
Dans certaines limites, mais oui. Et c'était plutôt une des surprises de l'enquête. Moi, je m'attendais à ce que les enfants recréent des formes de barrières sociales assez fortes dans leurs relations. Ça peut parfois être un peu le cas. Mais globalement, pas tant que ça. Et globalement, même chez les adultes, c'est quelque chose qu'on observe pas mal. En fait, quand on laisse des gens mélanger assez longtemps dans un endroit, ils finissent par se trouver des points communs. Alors, c'est sans doute plus le cas pour les ados, parce que de toute façon, ils sont à un âge de construction et de recherche d'eux-mêmes. Donc, ils sont prêts à essayer un peu plein de trucs différents, différentes musiques, différents centres d'intérêt, différents films, tout ce qu'on veut. Mais donc, ils s'apprennent les uns les autres, ou ils se socialisent, on dirait, les uns les autres, même quand ils viennent de milieux différents, ouais.
Est-ce que le fait qu'on ait depuis des décennies maintenant une culture adolescente, et c'est vraiment une création du XXe siècle, le fait de reconnaître même que cet âge existe et qu'il a ses propres références en termes de musique, de films et de vêtements, alors même s'il y a des genres différents et qui changent aussi au fil des époques, qui fait que les adolescents finalement peuvent aussi traverser certaines barrières qui éloigneraient les adultes, Alice Rebaud, cette culture des ados? Ouais, par exemple, le rap ou d'autres styles musicaux.
Mais encore une fois, ils ont cette culture-là parce qu'en fait, ils sont ensemble. Et moi, je trouve ça vraiment passionnant ce que vous racontez de cet espace, en fait, où juste, si on nous permettait en tant qu'adultes d'avoir accès à ces espaces mixtes, peut-être qu'aussi on partagerait les mêmes codes culturels, les mêmes. Et on pourrait avoir accès aussi à l'expérience, finalement, aussi des classes différentes. Alors qu'aujourd'hui, on vit quand même, voilà, globalement extrêmement séparés, sans fenêtre aussi sur les autres. Et du coup, ces amis, là qui les expérimentent, ces enfants sont extrêmement intéressantes, surtout à cet âge-là, parce que voilà, c'est justement des fenêtres sur l'extérieur par rapport à leur foyer, des espaces où ils vont voir que ce qui se joue chez soi, c'est pas forcément la norme et qu'il y a d'autres choses qui peuvent se jouer ailleurs. Et ça m'intéresse sur le point social, mais ça m'intéresse aussi sur plein d'autres sujets, parce que en fait, de voir que par exemple, quand ça se passe pas bien à la maison et qu'en fait, on a des parents très autoritaires, par exemple, de se dire, bah en fait, chez le copain, chez la copine, ça se passe pas pareil, et du coup ça veut dire que ça peut se passer autrement en fait. C'est aussi une bouffée importante dans la vie, dans la construction qu'on peut avoir aussi de son avenir, et puis plus tard aussi de la construction soi-même, de son faire famille, etc.
Allez, parents des copains, c'est toujours une grande découverte, comment on mange, comment on se distrait, comment on se parle dans les autres familles, et ça me rappelle plein d'expériences que j'ai eues moi-même enfant et ado, mais finalement, c'est beaucoup aussi mettre sur le dos de l'école comme poids. Hein. Vous parlez des amitiés au collège, Timothée Chabot, mais pourquoi pas parler des amitiés dans les clubs de sport? Ça fait beaucoup pour l'école. Vous dites, vous êtes pour cette école mixte qui mélange les gens, mais les clubs de sport, les clubs de musique, l'éducation populaire, il y a plein d'endroits où on pourrait se rencontrer. Je sais pas, le scoutisme, j'arriverai jamais à être complète, mais il y a d'autres occasions que celles de l'école. Pourquoi ça devrait être le travail de l'école de la République, qui a déjà forte affaire, que d'assurer que les gens se rencontrent alors que visiblement ils se rencontrent pas beaucoup ailleurs?
Oui, alors moi très honnêtement, j'ai été à l'école aussi un peu parce que c'était pratique et que aller chasser les enfants dans tous leurs autres lieux de sociabilité, ça aurait été difficile. Cela dit, on a quand même des bonnes raisons de penser, même si on n'a pas beaucoup de travaux dessus, que tous ces autres espaces sont moins mixtes que beaucoup de collèges. Les centres d'intérêt, déjà il y a les parents qui peuvent intervenir dans leur choix. Et puis, c'est souvent des activités qui sont assez connotées en termes de milieu social. Vous disiez un club de musique, bon, la classe de violon du conservatoire, c'est pas forcément l'espace le plus mixte qu'on peut trouver. Les activités de vacances aussi, ça dépend, mais des fois, ça peut être des séjours de vacances assez chers pour certaines familles, pas pour d'autres,
etc. Les colonies des entreprises, les colonies de vacances.
Je pense que c'est un des endroits qui doit être mixte aussi. Si vous avez des contacts chez EDF, j'aimerais beaucoup aller faire une recherche là-bas. Mais oui, vous avez raison,
Je peux vous brancher sur les colonies de Radio-France.
C'est pas mal. On avait fait avec une collègue qui s'appelle Marion Hoffman, une recherche dans une colonie de vacances, qui était une colonie de vacances un petit peu particulière. C'est des enfants qui avaient une maladie chronique et donc tout le séjour était pris en charge par la sécurité sociale. Et donc là, on avait des enfants de milieux sociaux très différents qui se retrouvaient dans un contexte effectivement qui n'était pas du tout celui de l'école. Et là aussi, ça se mélangeait pas mal.
Très court extrait de Briller. C'est la version française de Golden, une chanson de K-pop Demon Hunter que peu de gens qui n'ont pas d'enfants connaissent. C'est le film le plus vu sur la plateforme Netflix de toute l'histoire de cette plateforme. 236 millions de vues à l'heure où on se parle. Et je me demandais si l'amitié, c'était pas devenu aussi un petit peu un produit. À la fin de votre livre, Alice Rebaud, il y a une représentation par Digli d'un collier d'amitié avec ces deux parties qu'on peut mettre ensemble et qui forment un cœur. Des bracelets d'amitié aussi se vendent auprès des petites filles. Il y a tout un marketing autour de l'amitié. Dans K-pop Demon Hunter, le sujet, l'intrigue, c'est que c'est l'union des amis qui va permettre de sauver le monde, tout simplement. J'espère ne pas avoir trop spoilé le film. Je ne peux pas dire qu'il soit forcément passionnant pour des adultes, mais tout de même, il rencontre un grand succès avec ses musiques très accrocheuses. Donc l'amitié, c'est pas du marketing aussi un peu aujourd'hui?
C'est très paradoxal parce que là, ce dont vous parlez, c'est vraiment ce qui est à destination finalement des adolescents et des très jeunes. Donc c'est vrai que beaucoup de fictions encore à cet âge-là, qui sont destinées à des adolescents, sont encore centrées autour de l'amitié. Mais en fait, ça finit par disparaître quand même après. Voilà, dans les fictions plus pour les adultes, l'amitié est très peu là. On a très peu de rites en fait, en réalité, autour de l'amitié et elle passe plutôt derrière les radars. Mais c'est vrai qu'encore, pendant la période de la jeunesse, on estime que c'est encore le moment de l'amitié et que c'est l'espace, voilà, comme vous le disiez, valorisé. Si on n'a pas d'amis, c'est voilà, notre valeur sociale dégringole. Donc certainement, une partie de marketing commence à s'emparer de ça. Aussi parce que de plus en plus de jeunes, en réalité, réclament en fait des fictions qui ne soient pas que centrées autour de l'amour romantique, mais aussi autour de liens platoniques tels que l'amitié. Et donc certainement, voilà, ça commence à accrocher un peu l'oreille de nos créateurs de fiction.
Ça veut peut-être dire quelque chose, toutes ces fictions, et il y en a à l'appel, parce que j'en ai vu pas mal autour de l'amitié, comme la Reine des Neiges, c'était autour de la sororité. Alors ça commence à faire un bail.
Ce qui est très nouveau en fait, parce qu'apparemment Disney était quand même aussi beaucoup centré autour de la question de l'amour romantique. Donc voilà, de voir ça apparaître, ça dit quelque chose de ce qui est en train de se secouer autour de l'amitié en ce moment.
Exactement. Et je me suis demandé aussi si les amitiés aujourd'hui n'étaient pas plus démonstratives, si on se le disait pas plus. On voit par exemple, on se fait des câlins, on se fait des hugs, comme aux États-Unis, une pratique qui était très peu répandue quand moi-même j'étais adolescente ou quand mes parents, pour parler d'autres personnes que de moi et d'autres générations surtout, on montrait moins ces marques d'affection entre amis.
Mais ouais, je pense que on nous avait pas appris finalement aussi que c'était possible de se faire des déclarations d'amitié comme on se fait des déclarations d'amour. Et aujourd'hui, moi je vois très clairement quelque chose qui est en train de se mouvoir sur ce terrain-là, l'envie de dire que l'amitié n'a pas forcément à être reléguée au second plan, qu'on peut prendre soin de ses amitiés, qu'on peut les célébrer aussi chez les adultes. Et ça, je le documentais dans nos puissantes amitiés. Mais on a voilà des personnes qui décident de remettre l'amitié au centre de leur vie, de recréer leur propre rite, parfois de se paxer entre amis, de repenser le soin aux enfants à l'échelle d'un groupe amical, d'acheter des maisons entre amis. Et en fait, ça, évidemment, il n'y a pas d'études statistiques pour savoir quel pourcentage ça représente de la population. Les personnes qui se paxent, évidemment, c'est minime. Mais en fait, ça s'inscrit plus globalement dans toute une réflexion autour des hiérarchies relationnelles que porte beaucoup aussi la jeune génération, de se dire on nous apprend que le couple est tout en haut. Et ça, c'est très, très prégnant chez les adolescents, cette norme du couple, voilà, qui est l'espace où on va réussir notre
énorme,
vie.
Énorme, on en a parlé à plusieurs reprises dans l'émission, c'est ça, c'est sûr.
Donc ça perdure énormément, mais il y a quand même, chez une partie de la jeunesse, un questionnement autour de ça. Pourquoi est-ce qu'on nous apprend ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer d'autres chemins, d'autres voies? Et c'est ces voies-là que j'essaye d'explorer dans cet ouvrage, leur dire qu'en fait, on peut aussi envisager un chemin des possibles plus varié pour nos vies.
Alice Rebaud, militante de l'amitié. Alors, qu'en est-il des amitiés en ligne qui complètent parfois les amitiés dans la vie réelle? C'est une continuation. On parle beaucoup du harcèlement, qui est un drame et qui existe, évidemment. Mais aujourd'hui, les amitiés, elles perdurent dans le temps de la journée, de la semaine, sur les réseaux. Bon, nous, on avait le téléphone et peut-être avant les lettres, mais ça prend des proportions extrêmement importantes. Vous y êtes intéressé, Timothée Chabot? Est-ce que les élèves vous en ont parlé?
Oui, un petit peu. Quand on parle des amitiés en ligne, souvent, ce que les gens imaginent d'abord, c'est la figure un peu effrayante de l'inconnu derrière l'écran ou de quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout et qu'on a rencontré en ligne. En fait, effectivement, ce qui est le plus présent chez les jeunes, c'est leurs amitiés du collège ou leurs amitiés habituelles, mais qui sont juste prolongées le soir par la communication en ligne. Ça a des avantages et des inconvénients. Ça peut, des fois, produire des choses assez difficiles, dans le sens où quand, justement, on en parlait un petit peu tout à l'heure, certaines amitiés ou certaines relations peuvent être pesantes, chargées, normative, il y a une déconnexion qui est beaucoup plus difficile. Je pense que c'est aussi un petit peu ce dont parlait Margot Dehache, que vous avez mentionné tout à l'heure, le fait que les rumeurs aussi, maintenant, ne s'arrêtent plus au seuil du collège. Quand on rentre chez soi à 17h, bah, en fait, toute cette activité, toute cette conversation, tous ces échanges avec tout son groupe continuent par les réseaux.
Depuis qu'on n'est plus amis, je sens comme un vide dans mon cœur. Tu as laissé par erreur juste avant de prendre la fuite. Depuis qu'on n'est plus des sœurs, je l'avouerai à contre-cœur. La vie me fait presque un peu peur et j'imagine toujours le pire. Depuis qu'on n'est plus amis, je crois que c'est plus fort que moi. Mais tous les les jours je pense à toi, sans même m'en rendre compte parfois. Et depuis qu'on n'est plus des sœurs, la peine me prend à contre-cœur. Quand je me perds pendant des heures à chercher des photos de toi, dis-moi pourquoi.
Dis-moi.
On s'était rendu sourde avec nos coups d'éclat. Et toi comment ça va? Dis-moi comment ça va. Et toi comment ça va? Dis-moi comment ça va. Depuis que notre amour s'est mort. Et toi comment ça va? Dis-moi comment ça va. Et toi comment ça va? Dis-moi comment ça va. Depuis qu'on n'est plus amis, je me demande pendant des heures, m'as-tu remplacé par aigreur, peut-être par mélancolie. Dis-moi si elle est plus jolie, plus drôle, plus attachante aussi. Dis-moi si tu la trouves marrante autant que tu me trouves chiante. J'espère que ta tête ça va mieux, que dans ton désordre amoureux t'es pas tombé sur des connards qui t'auraient fait pleurer le soir. Est-ce que tu écoutes mes chansons? Est-ce que tu les trouves bien ou non? Est-ce qu'elles te font sourire parfois? Te font te souvenir de moi? Dis-moi pourquoi.
Dis-moi.
Je sens toujours un bout de toi qui bat en moi.
Dis-moi comment ça va. Et toi comment ça va? Dis-moi comment ça va. Depuis que notre amour s'est mort. Et toi comment ça va? Dis-moi comment ça va. Et toi comment ça va? Dis-moi comment ça va.
Depuis qu'on n'est plus amis, moi j'ai perdu mon idole. Parce que je t'aimais comme une folle, peut-être parce que je le suis. Et depuis qu'on se parle plus, tu sais moi je te vois partout. Dans toutes mes cigarettes fumées, dans tous mes sanglots ravalés. Où vont les amitiés qui meurent? Dans quel cimetière la terre demeure? Que je puisse m'y rendre à mon tour, fleurir la tombe de notre amour. C'est drôle comme on s'est enterré, les histoires d'amour du passé. Mais putain, comme c'est compliqué de dire adieu aux amitiés.
France Culture, être et savoir. Louise Touret.
Nous parlons d'amitié aujourd'hui dans Être et savoir, des amitiés qui nous forment, nous transforment, et particulièrement à l'adolescence. On vient d'écouter Contre-cœur de Yoa, une chanson extrêmement émouvante. Et c'est vrai que les ruptures amicales brisent le cœur. C'est peut-être même les premières fois que nos cœurs sont brisés, quand dans l'enfance ou à l'adolescence, on se fait larguer par les amis ou qu'on les quitte pour différentes raisons. Vous avez tenu à en parler assez longuement, Alice Rebaud, peut-être pour aider les adolescents et adolescentes qui traversent ces ruptures.
En tout cas pour en parler, parce qu'en fait on en parle très peu finalement des ruptures amicales, et souvent on a personne en fait finalement pour venir nous consoler quand on rompt avec un ami, comme on pourrait le faire voilà quand on a une rupture amoureuse, où il est tout à fait normal justement de traverser une période de deuil, de difficultés, de tristesse. C'est très peu le cas finalement en amitié, où on s'autorise pas toujours finalement à expérimenter et à prendre le temps juste simplement de faire le deuil d'une relation, et où aussi parfois la rupture n'est pas tout à fait franche, c'est-à-dire que comme on nous apprend pas vraiment à prendre soin de nos amitiés, à les entretenir, que c'est des liens qui valent le coup en fait, eh bien on n'apprend pas non plus à rompre en amitié. Et il y a ce qu'on appelle aujourd'hui une forme de ghosting, c'est-à-dire le fait de devenir fantôme, avec une, où on va disparaître finalement petit à petit de la vie de la personne sans mettre de point final à la relation. Et ça parfois c'est encore plus douloureux en fait finalement qu'une rupture où on a pu s'expliquer. Donc c'est vrai que moi j'avais à cœur de pouvoir parler de ça, déjà pour dire ben voilà ça existe et c'est normal que ça fasse mal, et on a le droit voilà de prendre le temps finalement de digérer ça, et puis aussi pour expliquer un peu, donner des clés peut-être comment faire finalement pour rompre en amitié, parce que c'est important de savoir comment l'entretenir, c'est aussi important de savoir comment est-ce qu'on arrête une relation et qu'on puisse garder finalement les souvenirs qui étaient beaux et joyeux, et puis voilà, savoir se dire au revoir, je pense que c'est aussi important.
Et c'est important d'avoir des chansons et des œuvres de fiction qui en parlent,
si
des supports. parce que il faut pouvoir voilà expulser sa peine et son chagrin dont vous ont parlé les ados. Timothée Chabot, c'est extrêmement intéressant que vous consacriez un chapitre au conflit. Intimité et conflit, ça m'a extrêmement intéressée parce que tout ressort dans les conflits amicaux, le pire en fait. Le pire, c'est-à-dire les sujets de racisme parfois, les stéréotypes, enfin c'est pas très propre hein, quand les ados rentrent en conflit.
Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Je trouve ça hyper intéressant ce que vous disiez, j'y avais pas réfléchi sur le fait qu'on n'avait pas vraiment de modèle de rupture amicale. Effectivement, la plupart du temps, quand on demande aux ados pourquoi est-ce qu'ils sont plus amis avec certaines personnes, parce que je les ai suivis pendant 3 ans, donc on voyait des amitiés disparaître, la plupart du temps, ils n'avaient pas vraiment de réponse. Ils ne savaient pas trop, il n'y avait pas forcément eu de dispute ou de coupure nette. C'était, on s'était un peu éloigné, on ne sait pas trop pourquoi. Et puis, ils se rendent compte un peu 2 ans plus tard, ah oui, c'est vrai, il y a 2 ans, j'étais très ami avec un tel ou une telle, et maintenant, plus trop. Donc, il y a effectivement une espèce d'étiolement un peu, qui est sûrement lié à beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. Mais on n'a pas ce modèle de la rupture claire, franche, ou de la discussion d'ailleurs qui permettrait de l'éviter.
Et c'est dur parce qu'on est dans le même établissement scolaire, c'est-à-dire qu'on va se recroiser potentiellement, ou dans la même ville, ou dans le même quartier.
Oui, alors c'est peut-être une des raisons aussi qui font que justement, on évite d'aller jusqu'au conflit ouvert, et on reste sur une espèce de relation un peu atténuée, un peu lointaine, pour pouvoir se croiser dans des groupes d'amis. Après, comme vous l'avez dit, de temps en temps, effectivement, il y a des grosses disputes. Généralement, d'autant plus que les personnes étaient proches. Ça, moi, avec mes sujets de mixité sociale, c'était une des choses qui m'intéressait, de savoir si les élèves ont des formes de rejet, de mépris, de discrimination, etc., pour ceux qui sont différents d'eux. En fait, la plupart du temps, quand ça se passe mal, c'est avec des gens qui sont très proches et qui nous ressemblent.
Oui, alors vous décrivez une adolescence plutôt tolérante. Au départ, vous dites, bon, il y a des gens qui ont d'autres styles, je ne sais pas, gothique ou je ne sais quoi, et c'est pas, ça ne nous fait rien. Mais quand on se dispute, c'est horrible. Je prends un extrait de la page 178, parce qu'il faut dire ce que racontent les ados. J'ai envie de dire les enfants, mais ils n'aiment pas qu'on dise les enfants quand ils sont ados. Donc, c'est une dispute entre des élèves d'origine nord-africaine par leurs parents, on suppose qu'ils sont nés en France, et ça se termine par « ouais, de toute façon, les Algériens, ils sont tous nuls ». Voilà, sortir la phrase quand même comme ça. Et ça va assez loin. Et pareil pour les filles, et etc. Les conflits sont quand même assez durs.
Oui. Moi, ce qui m'avait intéressé...
Il n'y a pas de médiation adulte aussi.
Ouais. Moi, ce qui m'avait surpris par rapport à ça, c'est justement que ces choses-là ne sortent qu'en cas de conflit. C'est très intéressant de voir qu'effectivement, sur les origines, sur les notes, sur le genre, sur plein de sujets de tension qui peuvent exister entre les élèves, la plupart du temps, presque, ils ont l'air de tous être en train de faire des efforts pour essayer de gérer ces tensions. Pour pas vexer quelqu'un, pour pas dire un truc raciste, pour pas aller sur les sujets qui fâchent. Le moment de la dispute, c'est le moment où ce contrôle-là peut craquer. C'est aussi le moment où, juste des fois, on essaye de dire les choses dont on sait qu'elles vont être les plus blessantes possibles pour l'autre personne. Et donc, très clairement, le racisme, ça blesse. C'est très efficace. Donc, c'est pour ça que ça sort à ce moment-là. Mais le reste du temps, au contraire, il y a vraiment un effort, je pense, assez conscient chez beaucoup d'ados, d'essayer d'atténuer toutes ces sources de tensions potentielles.
C'est ce qu'on appelle le vivre ensemble, qui est au programme de la maternelle. Ça s'appelle comme ça. On en parle un peu moins au collège, mais par exemple, dans la charte de la laïcité, qui est affichée absolument partout dans les établissements, vous avez dû pas mal la voir, parce que moi, je la vois quand je me rends dans des collèges ou des lycées. Voilà, on prône une forme de tolérance avec toutes les différences. Alors, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, différence, ça voudrait dire aussi qu'il y a une norme, mais en tout cas, est-ce que les adultes doivent se mêler de ces conflits? Parce que quand on vous lit, on a un peu l'impression qu'ils sont tout seuls, ces ados. On ne voit pas beaucoup le décor derrière, ni de la classe, ni des surveillants, ni du CPE, qui ont quand même des rôles assez importants dans la vie du collège.
Ça, c'est assez typique de l'école française, en fait, qui depuis très longtemps, est construite sur une espèce de séparation hyper forte entre l'espace de la classe, qui est régi par l'enseignant ou par les adultes, où, en gros, les enfants ne sont pas censés interagir entre eux. C'est juste tout le monde sur sa table, on regarde le prof. Et après, un espace qui est celui de la cour de récréation ou d'en dehors de l'école, et là, qui est une espèce d'espace complètement libre où les adultes n'interviennent pas et où les enfants ou les ados se débrouillent, en fait, pour régir leurs relations. C'est une séparation qui est très brutale, alors ça commence à s'atténuer un peu. C'est beaucoup moins le cas dans d'autres pays où les enseignants peuvent jouer avec les enfants dans la cour de récré, parler avec les élèves, ou aussi on les laisse inversement davantage interagir entre élèves pendant la classe. Mais là, effectivement, il y a cette rupture très, très brutale et qui fait qu'effectivement, toute la vie sociale des ados se fait sans aucune régulation, sans aucun accompagnement adulte. Et oui, ça peut produire des choses assez violentes, mais y compris par le fait que dans le cadre du collège, souvent les adultes ne donnent pas beaucoup l'exemple, j'allais dire, j'espère qu'ils me pardonneront. Mais en termes d'écoute, de compréhension, de dialogue un petit peu émotionnel ou sur les relations avec les élèves, en général, les ados ne perçoivent pas le CPE ou les profs comme quelqu'un à qui ils peuvent parler de leurs problèmes. Ce n'est pas ça la figure de l'enseignant qui est mise en place par l'école. Et donc évidemment, pour la régulation des relations, pour le fait de se confier, de demander des conseils, etc., c'est souvent pas là qu'ils vont trouver du soutien.
Comment vous avez regardé cet espace si particulier qu'est la cour d'école, la cour du collège ?
C'est très bizarre. On a un petit peu oublié, je pense, quand on est devenu adulte, de ce que c'est qu'une cour d'école. Souvent, c'est un carré de béton où on lâche 500 ou 600 personnes sans grand-chose à faire et elles doivent s'occuper pendant un quart d'heure ou une heure quand c'est l'heure du repas. Donc c'est très particulier. C'est quelque chose qui arrive très peu chez les adultes, ce que j'ai envie d'appeler des moments de sociabilité non cadrés, sans activité. Enfin, vous voyez, nous, quand on invite des amis, on va boire un café, on va au cinéma, on fait quelque chose. Là, vraiment, il faut un petit peu qu'ils se débrouillent pour s'occuper les uns avec les autres. Et c'est une des raisons pour lesquelles les amitiés, les relations, mais aussi les rumeurs, les histoires, les disputes et machin prennent autant d'importance, parce qu'en fait, on a créé un contexte physique, pratiquement, dans lequel il n'y a que ça à faire.
C'est pas très convivial, une cour d'école. Alors bien sûr, certaines plus que d'autres. Et bien sûr, tous les enseignants n'ignorent pas ce qui se passe entre les élèves, évidemment. Mais vous nous racontez ce que vous avez observé, Timothée Chabot. Alice Rebaud, est-ce qu'il y a une question de lieu ? Où est-ce qu'on peut se rencontrer quand on est amis et qu'on est jeune, si on ne va pas les uns chez les autres, on n'a pas d'argent pour aller au café ? Cette question du lieu, depuis que je fréquente plus des ados, elle me pose beaucoup de questions.
C'est vrai que dans la création des liens d'amitié, les études montrent que c'est plutôt à l'école et ensuite au travail que voilà, on peut plus facilement nouer des liens. Moi, ce qui me frappe beaucoup ces dernières années, ces dernières décennies, c'est que je crois qu'on a beaucoup perdu les espaces de rencontres et les espaces de mouvement en fait finalement en dehors des foyers, en dehors de l'école.
Par exemple,
qui sont en dehors du regard des adultes. Par exemple, les enfants aujourd'hui, les adolescents sont beaucoup moins à l'extérieur en train de jouer entre eux sans être sous le regard des adultes, ce qui évidemment est fait parce que pour des questions de protection, etc., qui sont réelles, mais qui en même temps enlèvent toute une part finalement de jeu et d'imaginaire en fait concret quand on n'est pas sous le regard des adultes. Et ça, c'est que ce soit dans la nature ou que ce soit dans la ville, en fait finalement il n'y a plus vraiment d'espace de circulation des jeunes. Et d'ailleurs il y a même des études aux États-Unis qui montrent que les enfants, les adolescents ont beaucoup moins de fractures, donc ça paraît très positif dit comme ça, mais en fait c'est parce qu'ils sortent plus et qu'en fait ils ont plus l'occasion de se faire mal. Et donc voilà, il y a cet espace de rencontre qui est fait dans le foyer.
On veut des bras cassés.
En tout cas, c'est un indice pour nous montrer que les enfants restent finalement, si ce n'est enfermés en tout cas à l'intérieur, ce qui présuppose du coup que les parents puissent inviter, donc il faut avoir de l'espace, ou que les parents décident d'organiser des activités bornées par les adultes, ce qui est quand même assez différent du jeu libre, d'ailleurs, qu'on peut observer certainement dans la cour d'école.
Alors, moi, au collège, parce qu'on joue moins quand l'adolescence a pris la place de l'enfance, en tout cas, pas au même jeu, et moins sous le regard des adultes. Je pense, en vous écoutant au livre La Maison des Rêves de Nora Hammadi, notre consoeur, qui maintenant est à France Inter, et qui parle justement de ça, de ces lieux qui ont disparu des banlieues qui sont devenues plus tristes. Alors, pas toutes forcément. Enfin, je suis en train de le lire, je n'ai pas encore terminé, mais cette maison des rêves, on comprend qu'elle n'existe plus et que c'était un lieu hyper important pour Nora Hammadi quand elle était jeune. L'amitié, c'est une question hyper géographique, Timothée Chabot, et vous en parlez parce qu'en étudiant des collèges en Savoie, où on prend un ramassage scolaire, ou en région parisienne, où on est en ville, où on va avoir plus de temps pour traîner, rester, enfin on peut dire comme on veut, passer du temps ensemble devant l'établissement ou dans les rues, ça va pas avoir le même effet sur les relations. On va être plus dans son quartier avec ses voisins, en gros, en Savoie, et plus avec un peu tout le monde dans la région parisienne.
Oui, complètement. En Savoie, en tout cas dans un des collèges où j'étais, effectivement, pour se déplacer entre villages, il faut une voiture. Pour une voiture, il faut des parents. Déjà, les parents ne sont pas toujours disponibles.
Qui est leur permis ? Mais en Savoie, on l'a plus facilement.
En général, quand même, sinon, c'est compliqué. Mais du coup, ça veut dire que les adultes ont davantage de contrôle ou davantage de prise sur les relations de leurs enfants. Puisque bah, pour aller chez un copain, pour aller chez une copine, il faut demander la permission. Là où, effectivement, dans les villes, à Paris, mais aussi dans un des collèges de Savoie qui était dans un petit centre-ville, les enfants peuvent traîner ensemble après les cours, aller au parc, à la médiathèque, etc. Et donc là, en fait, trouver des espaces et des choses à faire ensemble en dehors du regard des adultes. Ça m'a fait penser aussi ce que vous disiez au fait que cette absence d'espace extérieur, elle est quand même plus ou moins présente selon les milieux sociaux. Et notamment, on a pas mal d'enquêtes qui nous montrent que les parents des classes supérieures exercent un contrôle beaucoup plus proche sur les activités et pour certains sur les fréquentations de leurs enfants. Là où dans pas mal de familles de milieux populaires, on va davantage laisser les enfants jouer juste entre enfants, sortir dehors, aller dans des endroits où les adultes ne sont pas. Pas du tout, comme le pensent parfois certains responsables éducatifs, etc., par négligence, mais vraiment par intention éducative de la part des parents qui est, non, il faut aussi qu'ils apprennent à se débrouiller entre eux, à faire des choses sans les adultes et à grandir de cette façon-là.
Être dans la rue, c'est pas du tout vu pareil, c'est pas du tout vu comme un danger, et c'est le désir aussi des adolescents de pouvoir rester dehors. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils ont envie de faire.
Oui, bah globalement, à un moment, à un âge, ils ont juste envie d'échapper aux adultes. Mais oui, complètement, et c'est assez grisant en fait, le fait à mesure qu'on grandit d'avoir de plus en plus de liberté, de plus en plus d'espace où on peut aller par soi-même et de possibilités qui s'ouvrent. Donc, effectivement, ils sont très contents quand ils ont l'occasion de traîner un peu entre eux.
Alors, Timothée Chabot, vous parlez de mixité sociale dans votre livre, une mixité toute relative, mais qui peut exister dans les collèges mixtes. Et c'est pas seulement le collège public, on peut se rencontrer aussi plus ou moins dans des collèges privés. Évidemment, c'est pas pareil. La mixité sociale n'est pas égale, mais tout de même, on voit des adolescents très curieux les uns des autres, et c'est plutôt rassurant, même si l'homophilie, on l'a dit, c'est le premier truc, hein, d'abord avec ceux qui nous ressemblent, mais peut-être avec une ouverture ensuite. L'amitié, c'est politique. Alors, il y a aussi l'amitié entre parents. J'y ai pensé et j'ai eu tout un chemin dans ma tête, Alice Rébeau, parce que je relisais Nos puissantes amitiés, donc, qui est sorti en poche en septembre 2025. Vous dites l'amitié, c'est aussi réinventer les relations dans la société, créer peut-être une autre manière d'être parent. Et puis, je me souvenais de ce livre de Geoffroy de Laganerie, paru en 2023, Une aspiration au dehors, éloge de l'amitié. Mais lui, il est contre la famille. Geoffroy de Laganerie, il dit, voilà, l'amitié, c'est quelque chose justement qui nous émancipe, qui nous permet d'être libres dans nos vies quand la famille nous enferme. Alors, j'ai pas eu l'occasion de le rencontrer pour lui dire, mais peut-être que être parent différemment et avoir d'autres amis parents, ce serait politique.
Absolument, parce que déjà, la manière dont on interagit nous-mêmes, dont on crée en tant qu'adulte notre cercle social et où on laisse entrer ou sortir d'autres adultes, des amis, où on montre aussi à nos enfants finalement qu'on n'a pas délaissé malgré l'entrée en couple et l'entrée en famille finalement nos autres liens intimes et qu'on les leur garde une très grande estime et qu'on continue à en prendre soin, c'est déjà montrer un certain exemple. Et puis pour les enfants, c'est aussi pouvoir avoir accès finalement aussi à d'autres adultes référents, c'est grandir avec d'autres piliers qui ne sont pas simplement les parents. Et c'est permettre de sortir de ce qu'on pourrait appeler une forme de huis clos qu'on nous apprend quand même beaucoup ces dernières décennies avec cette idée voilà, de la famille nucléaire dans son pavillon individuel ou dans son appartement individuel, un papa, une maman, deux enfants, un peu resserré comme ça sur soi avec l'idée aussi du couple fusion où donc finalement on finit et les études montrent bien qu'une fois qu'on se met en ménage et puis une fois qu'on a des enfants, on a tendance à perdre une grande partie de ses amis et du coup à finir...
Alors là, on est d'accord avec Geoffroy de Laganerie, mais on peut inventer
mais le fait, bah bien sûr, en fait, il y a des personnes aujourd'hui qui essayent justement de sortir de ce huis clos et de se dire on peut aussi avoir des enfants et les élever de manière différente, c'est-à-dire aussi faire rentrer d'autres adultes dans le cercle, au grand bénéfice des enfants qui ont d'autres oreilles attentives, des personnes, des adultes qui leur montrent d'autres choses, des exemples qui sont différents, des adultes qui ont des personnalités qui les appellent finalement à pouvoir se confier sur telle ou telle chose. Et puis aussi, finalement, moi, je crois beaucoup, et c'est certes moins joyeux, mais voilà, que l'idée de pouvoir ouvrir nos familles, c'est aussi apporter beaucoup de sécurité aux enfants parce que le huis clos familial favorise aussi les violences, favorise les abus d'autorité et que le fait de pouvoir, voilà,
ouvrir. Donc ce serait plus éducatif, plus profitable pour les enfants.
Tout à fait. Voilà, on nous présente souvent la famille nucléaire classique en fait comme l'espace le plus profitable et le plus sécurisé pour les enfants. Moi, je crois que c'est pas tout à fait vrai. Et sans du coup mettre la famille au rebut, on peut peut-être inventer d'autres manières de faire lien. Et puis aussi pour franchement décharger aussi les parents. Est-ce que être deux personnes, c'est pas énorme en fait finalement pour s'occuper
Non, c'est pas énorme.
C'est pas. Non, c'est... S'occuper d'un enfant simplement à deux, c'est une charge énorme.
Est-ce que les parents d'élèves, ça peut être une ressource? Je regarde parfois les réseaux sociaux, hein, comme tout le monde, j'y passe du temps. Il y a beaucoup de blagues sur les parents d'élèves. Et l'humour français repose beaucoup sur la moquerie et la dépréciation de l'autre. Mais finalement, ça ne vaudrait pas le coup de faire une étude. Peut-être que je vous branche sur un nouveau sujet, Timothée Chabot, vous allez me dire, sur la manière dont on rencontre ou pas d'autres parents à l'école, des parents qui nous ressemblent ou qui ne nous ressemblent pas, suivant cette école qu'on fréquente, plus ou moins mixte, socialement.
Si, complètement. Effectivement, il faut faire l'étude. L'intuition que j'ai, c'est que oui, quand les enfants développent des amitiés mixtes, ça peut être une ouverture vers des relations mixtes entre parents. En tout cas, ce qu'on sait déjà, c'est que après le premier enfant, une des grandes sources de rencontre de nouvelles personnes pour les parents, c'est les parents des amis des enfants. Très souvent, les jeunes parents ou les jeunes couples rencontrent beaucoup et passent beaucoup de temps avec d'autres parents et d'autres jeunes couples, ce qui d'ailleurs peut poser des problèmes pour les anciens amis qui n'ont pas eu d'enfants. Mais,
chacun a son expérience, voilà, j'entends la mienne, j'entends la vôtre.
mais effectivement, y a un moment à partir duquel ce sont les enfants qui font rencontrer des gens à leurs parents. Et donc, si on fait de la mixité entre enfants, et ben on aura aussi quelques belles surprises chez les parents, en tout cas, on peut espérer.
Donc, c'est politique, l'idée de créer autour de l'école du lien social, au-delà des liens qu'on a peut-être par réflexe, par homophilie. Mais ce serait un grand projet pour l'école.
Oui, pas que pour l'école. Si on veut faire se rencontrer des gens différents, si on veut avoir un petit peu plus de liens, généralement, ou de cohésion dans nos sociétés, il ne suffit pas de mettre les gens à côté, de les faire vivre dans le même quartier. Ce serait déjà pas mal, cela dit. Mais il faut aussi trouver des activités, des objets, même des objectifs communs qui vont permettre de rapprocher les gens. On ne devient pas ami avec quelqu'un qu'on croise dans la rue, on devient ami avec quelqu'un avec lequel on a un objectif ou une activité en commun. Et donc l'école, c'est un des lieux dans lequel les gens s'investissent beaucoup, parce qu'ils suivent la scolarité de leurs enfants, et c'est très bien. Et donc, c'est un des endroits qu'ils vont investir et dans lesquels ils peuvent rencontrer des gens. Mais on pourrait aussi complètement avoir une réflexion politique sur la façon de créer de nouveaux espaces de rencontre pour les adultes. Et alors là, les clubs de sport, les médiathèques, les manifs, les piscines, tout ce qu'on veut.
Qu'est-ce que ça nous apporterait ?
Ça nous apporterait déjà du soutien affectif et émotionnel à travers les amitiés. Encore une fois, c'est important pour les jeunes parents dont on voit qu'ils perdent beaucoup d'amis. La taille des réseaux de relations se rétracte assez fortement après la naissance du premier enfant. Il y a un petit enjeu de temps et de disponibilité et de temps de sommeil derrière ça. Mais c'est aussi lié au fait que une fois qu'on a pris un petit peu cette vague après les premiers enfants, on a moins eu de temps et puis les enfants grandissent, on retrouve un petit peu de temps, on se dit je vais réavoir une sociabilité, réavoir des amis. On manque de lieux de rencontre. Et donc, créer des instances qui permettent aux adultes de nouer des amitiés, ça leur permettrait de retrouver quelque chose que déjà ils recherchent pour beaucoup, mais qu'au-delà d'un certain âge, ils ont du mal à trouver.
Je m'attendais à une réponse sur le plan plus collectif, Timothée Chabot. Sur le plan de la société.
Oui, effectivement, c'est un des autres grands avantages des relations mixtes socialement, c'est que ça va réduire les préjugés ou l'inquiétude vis-à-vis de groupes sociaux externes. Y a toute une tradition de recherche, je ne sais pas si c'est à ça que vous pensiez, autour d'une théorie en psychologie qui s'appelle la théorie du contact intergroupe et qui montre de façon très claire que plus on fréquente des gens différents de nous, sur tout un tas d'aspects, et moins on développe de représentations méfiantes ou hostiles vis-à-vis d'autres groupes sociaux que le sien. Dans le contexte politique actuel et avec un certain nombre de tensions, on va dire, notamment sur les sujets communautaires ou ethniques qui se développent, c'est sûr que des amitiés entre groupes, ça ferait beaucoup de bien à tout le monde.
Qu'est-ce que ça nous apporterait une politique, si elle pouvait exister, de l'amitié ?
Déjà, moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en interrogeant la place finalement de l'amitié qu'on peut avoir dans nos vies, en fait, on interroge toute notre organisation sociale. Parce que penser sur quel pilier, sur quel soutien est-ce qu'on peut s'appuyer, qui est-ce qu'on a le droit voilà, d'avoir dans nos foyers. C'est aussi une manière de penser plein d'enjeux, par exemple les enjeux du siècle tels que le vieillissement de la population, qu'est-ce qu'on fait en fait finalement, comment est-ce qu'on pense nos solidarités dans le vieillage. C'est aussi s'interroger sur la question écologique, parce qu'en fait rajouter des personnes dans son foyer, donc pas être forcément juste vivre dans la famille nucléaire, en fait ça a des bénéfices écologiques, parce qu'on démultiplie pas voilà, les équipements individuels ménagers, qu'on peut partager une voiture, parfois un espace de subsistance ensemble. Voilà, en fait, tout ça permet d'être questionné quand on se demande quels sont nos liens, quelles sont nos constellations. Et puis sur la question, évidemment, de la solitude, on voit ces dernières années, ces dernières décennies, une grande montée, en fait, de la solitude dans nos sociétés contemporaines, à tous les âges, et pas seulement dans le vieil âge, mais aussi voilà, chez les très jeunes, et puis après chez les jeunes parents. Et ça pose énormément d'enjeux, que ce soit des enjeux de santé publique, mais aussi des enjeux de santé démocratique, je crois, parce que les forces réactionnaires se nourrissent, en fait, finalement, de notre atomisation, de notre solitude, et donc refaire lien, retrouver des espaces, mais c'est facile de le dire ainsi, en fait, on a de moins en moins d'espaces pour se rencontrer, et c'est presque un projet politique, en fait, finalement, de se dire, bah voilà, les infrastructures public décline, on a de moins en moins de bals ruraux, de bals populaires, on a de moins en moins de bibliothèques, de MJC. Tout ça fait qu'en fait, ça crée de la solitude, de l'atomisation, dont se nourrissent certaines forces. Et voilà, ça demande un vrai bouleversement finalement de notre organisation sociale, de nos politiques du logement, de nos politiques de la ville, pour pouvoir arriver à lutter contre cette création de la solitude.
Il savait rire, tous mes amis, il savait si bien partager mes jeux, mais tout doit finir pourtant dans la vie. Et j'ai dû partir les larmes aux yeux. Mes amis me demandaient pourquoi pleurer. Découvrir le monde vaut mieux que rester. Tu trouveras toutes les choses qu'ici on ne voit pas. J'y laissais mon cœur. Tous mes amis enviaient ma chance, mais moi je pense encore à leur bonheur, à l'insouciance qui les faisait rire. Et il me semble que je m'entends leur dire, je reviendrai un jour, un beau matin, parmi vos rires.
La maison où j'ai grandi de Françoise Hardy, une chanson aussi sur l'amitié. Et dans cette émission sur l'amitié, on souhaitait avec Camille Maty vous parler d'une superbe bande dessinée parue chez Glénat, Le problème avec les fantômes de Myrion Mal. Ça commence un soir d'été, quatre amis justement se retrouvent pour boire un verre, tout est léger et joyeux jusqu'à ce qu'Irène parle de Caleb, un ami décédé l'année passée. Irène le croise partout, dans la rue, sur le pas de sa porte et dans son canapé. Alors, est-ce qu'on peut apprivoiser l'absence? Je me suis coupée de tout ce qui avait rapport avec toi et maintenant, tous les endroits où tu n'existes pas me font terriblement souffrir, dit Irène. On parlait dans cette émission des chagrins d'amitié. C'est Camille Mathy hein, qui a écrit ce petit passage sur ce livre auquel elle tient beaucoup et elle me pose cette question. Existe-t-il des lieux où on peut oublier ce que l'on a aimé? Je vais y penser longtemps. Merci beaucoup Alice Rebaud, vous êtes une vraie militante de l'amitié. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage qui s'adresse aux jeunes, mais pas seulement, Les Amis IES ou IS, c'est La Vie, publié à La Ville Brûle, c'est important de le dire, et illustré par Digli. Timothée Chabot, je rappelle également le titre de votre livre, Les Amitiés au Collège, Mixité sociale et relations entre élèves. Ça a paru au PUF en juin 2025. Merci à Avril Ventura, adjointe à la production d'Être et Savoir, une émission réalisée par Camille Mathy avec Sorge Leroy et mise en onde par Nicolas Leroulet.